Parlons d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour, comment se déroule le déconfinement en Europe ? Au Royaume-Uni, pubs et restaurants ont enfin réouvert ce week-end, mais en Espagne, 300 000 personnes ont dû de nouveau s'isoler chez elles dans le nord du pays après la découverte de plusieurs foyers de Covid-19. Bien fragile donc ce retour à la circulation des personnes. Mais la réouverture des frontières dans l'espace Schengen le 15 juin a aussi provoqué un grand ouf de soulagement chez de nombreux Européens, dans toutes les zones frontalières notamment, qui vivent à cheval entre deux pays. Exemple en Slovénie. Ce petit pays partage 4 frontières avec l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Croatie. Frédéric Lebel s'est rendu dans l'est de la Slovénie, dans une zone où la notion de frontière a une résonance particulièrement douloureuse. Nova Gorica en Slovénie et Gorizia en Italie sont deux villes jumelles. Elles ont été une seule, puis deux au fil de l'histoire européenne. Autant dire que dans ces deux bourgades, le 15 juin a été jour de fête. Le reportage de Frédéric Lebel.
À Nova Gorica, la Slovène, tout comme à Gorizia, l'Italienne, la vie reprend son cours. Au pied des montagnes, les clients sont en terrasse, il fait chaud, les enfants pataugent dans la fontaine.
Bonjour.
À la mairie, les deux édiles nous attendent dans la bonne humeur. Dans leurs deux villes, la pandémie n'a fait aucun mort et à peine une centaine de malades. Mais le traumatisme est ailleurs. La fermeture de la frontière le 12 mars dernier restera encore longtemps gravée dans la mémoire du maire slovène Klemen Miklavic.
C'était un choc, une agression contre notre territoire. On n'aurait jamais imaginé que des barrières pouvaient à nouveau être élevées dans cette région, comme par le passé. On ne pensait pas qu'un retour en arrière était possible. En 1947, on nous a séparés artificiellement entre deux pays. Et ensuite, on a pu retrouver cette unité grâce à l'Europe, à Schengen et à tout le processus qui a suivi.
Il y a 3 mois, un simple grillage est venu couper en deux la place de l'Europe, tout un symbole. Ultime rebondissement d'une longue histoire qui a vu au fil des siècles Gorizia, l'Austro-Hongroise, coupée en deux en 1947 pour renaître côté yougoslave en Nova Gorica. Les retrouvailles entre les deux bourgs ne pourront se faire qu'au début des années 2000 avec l'entrée de la Slovénie dans l'Europe et l'espace Schengen.
Le gouvernement de Ljubljana n'arrive pas vraiment à comprendre qu'ici, les frontières ne traversent pas les montagnes et les forêts. Ici, la frontière passe au milieu des rues, des places. Et donc la frontière ne peut pas être un instrument pour résoudre des problèmes.
Aujourd'hui, seule l'architecture socialiste des années 50 côté slovène et austro-hongroise côté italien marque les territoires, mais l'économie régionale ne connaît pas vraiment de frontières.
Les Slovènes vont dans les centres commerciaux à Gorizia en Italie, et à Nova Gorizia, les magasins sont pleins d'Italiens. Et puis il y a les casinos, notre économie repose sur les jeux d'argent, et ça a beaucoup chuté pendant le confinement. Il y a aussi les restaurants. Il y a beaucoup d'échanges de part et d'autre de la frontière. Par exemple, quand il y avait la barrière, on a vu des gens qui vendaient des pneus de part et d'autre de la frontière. C'est comme si on avait scindé notre économie. Imaginez si on coupait Paris en deux.
À Gorizia et Nova Gorica, on n'aime pas les barrières, surtout lorsqu'elles viennent défigurer des places à cheval sur les deux pays. Franca et serveuse au café Bordeaux, le café de la gare, sur la place de l'Europe. Après le déconfinement, elle a observé avec joie les habitants se moquaient de cette frontière en forme de grillage, forcément absurde.
C'était très vivant. Il y a des gens qui jouaient au volleyball. Une équipe italienne de l'autre côté de la barrière, une équipe slovène de ce côté. Il y a eu des spectacles de danse, style flash mob, toujours des deux côtés. Et puis ils ont installé des chaises d'arbitre pour pouvoir trinquer au-dessus des grillages, avec des chopes de bière, même si c'était pas autorisé. On a même rigolé en disant que c'était du trafic illégal d'alcool.
Et lorsque la frontière a réouvert, dans un premier temps côté italien, c'était la liesse.
C'était une grande fête. Les Italiens sont venus pour nous raconter à quel point ils étaient contents de nous retrouver. Et ils se sont laissés aller, ils ont bu un peu trop. C'était très gai.
Un sens de la fête que l'on n'oublie pas dans les couloirs de la municipalité. Pour 2025, les deux villes veulent poser leur candidature pour être capitale européenne de la culture. Une Europe que Rodolfo Ziberna, le maire de Gorizia, l'italienne, place délibérément sous le signe de l'amitié avec son homologue slovène.
D'abord, il y a une raison personnelle, c'est l'empathie. Ça aide toujours. Moi, par exemple, ça m'intéresse pas de savoir s'il est de droite, du centre ou de gauche. De la même manière que ça ne l'intéresse pas que je sois du centre, de gauche ou de droite. Mais il y a deux villes qui dialoguent. Et à mes yeux, le rapport d'amitié entre les deux maires, c'est vraiment très important.
De toute évidence, le courant passe entre les deux élus qui s'amusent de leur complicité sur la place de l'Europe que les Italiens appellent toujours de son ancien nom. Piazza della Transalpina, on a laissé sur le côté une barrière, vestige d'une frontière qu'on ne veut plus revoir.
C'est une toute autre situation chez les voisins au sud de la Slovénie, dans la région des Balkans. Depuis plusieurs semaines, les contaminations au Covid-19 remontent en flèche. Officiellement, c'est la Macédoine du Nord qui serait la plus touchée. Mais juste à côté, en Serbie, le gouvernement est accusé de falsifier les chiffres. Et au Kosovo, plusieurs municipalités ont réintroduit un couvre-feu lundi. Face à ce qui ressemble de plus en plus à une deuxième vague de l'épidémie, les autorités locales hésitent sur la réponse à apporter. Simon Rico.
Lorsque le déconfinement s'est amorcé dès la mi-mai, la situation épidémique dans les Balkans était l'une des meilleures de tout le continent européen. Les cas d'infection avaient pu être très limités, de même que les décès liés au Covid-19, à peine quelques centaines, le tout grâce à de strictes mesures prises avant même que la première vague ne commence. C'est donc avec une certaine anxiété que les populations locales regardent les courbes des contaminations remontées brutalement. Officiellement, c'est en Macédoine du Nord que la situation est la plus critique, avec un triplement du nombre de malades passé de 2 à 6 000 depuis la fin mai et des services de soins qui commencent à être débordés. Mais dans tous les pays du sud-est de l'Europe, le nombre de malades a été multiplié par au moins 2 depuis un mois. Il est aujourd'hui de 720 au Petit Monténégro et dépasse les 15 000 en Serbie, pays le plus touché de la région. D'autant que les autorités de Belgrade, engagées dans une profonde dérive autoritaire, sont accusées de falsifier les chiffres pour minimiser la réalité de l'ampleur des contaminations. Les infos qui circulent dans les rares médias indépendants et sur les réseaux sociaux sont alarmantes, notamment dans le sud du pays, où les hôpitaux surchargés doivent installer les malades jusque dans les couloirs. Face au tollé, les autorités ont décidé de reconfiner la capitale Belgrade. En Croatie et au Monténégro aussi, la hausse des contaminations suscite l'inquiétude, d'autant plus que les deux pays sont très dépendants du tourisme. Pour Zagreb, 2020 promet d'être catastrophique, avec un chômage qui pourrait tripler d'ici la fin de l'année, faute de visiteurs. Au Kosovo, des couvre-feux ont été remis en place par plusieurs municipalités alors que le nombre de décès et de contaminations atteint là aussi des records. Dans l'indifférence de la population, dont une majorité estime que le virus est aujourd'hui moins dangereux qu'au printemps. Sicilia, si la terra di l'amore, tu si la gioia di l'innamorati, che vedono di tutti i paesi.
Et le tourisme dans tout ça. En Italie, le pays le plus durement touché par le Covid dans l'Union européenne, cela fait des mois qu'on réfléchit à la possibilité d'accueillir des touristes malgré de possibles restrictions de déplacement. Car le tourisme représente 13% du PIB national. Alors en attendant le retour des touristes étrangers qui risquent d'être moins nombreux cette année, certaines régions moins connues que les classiques Venise, Rome ou Florence débordent d'idées pour faire valoir tous leurs atouts. Exemple avec ce spot publicitaire plein d'humour, Cécile Debarge.
Quest'estate scegli Atene, la sua acropoli, la sua storia millenaria.
Cet été, choisis Athènes, son acropole, son histoire millénaire, ou bien Marrakech et ses ruelles escarpées, ses couleurs vives, le chant du muezzin. C'est par ces mots que commence le premier spot de la campagne de publicité « Ce ne sont pas les Caraïbes » lancée par la région de Sicile occidentale. Car en guise d'Athènes, le spot publicitaire nous emmène à Ségeste, à 70 km de Palerme, le chef-lieu de la Sicile, où un magnifique temple grec surplombe les vallées viticoles qui s'étendent jusque la mer. Et à la place de Marrakech, c'est Mazara del Vallo, l'un des principaux ports de pêche de Méditerranée, dont le centre historique est en réalité une casbah, la ville ayant été bercée par la culture tunisienne. L'idée de la campagne est la suivante. S'ils ne peuvent aller à Athènes, à Marrakech ou bien aux Caraïbes, les Italiens peuvent découvrir dans leur propre pays des destinations qui ressemblent à s'y méprendre. Souvent oubliés des voyageurs qui se rendent en Sicile, la partie occidentale de la plus grande île italienne a même décidé d'associer les hôteliers de la zone et d'offrir une nuit d'hôtel aux vacanciers. Lancée mi-juin, la campagne a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et suscité déjà plus de 1000 demandes de nuits offertes en moins d'un mois. Ce n'est que le début, mais ce chiffre illustre les efforts faits par les opérateurs du tourisme sicilien pour tenter de sauver le secteur qui représente près de 15% de l'économie régionale.
Ok, confinement, jour 1. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est bon, mais j'ai la pêche.
C'est une profession qui n'est pas applaudie ni remerciée comme l'ont pu être les soignants, les éboueurs ou les caissiers. Pourtant, leur travail n'a pas cessé, ni pendant le confinement, ni après. C'est celui des assistants et assistantes sociales. Ces personnes sont un maillon essentiel dans la crise actuelle, d'autant plus que de nombreux espaces de socialisation, comme les écoles ou les collèges, n'ont pas pu réouvrir normalement. Le reportage de Lise Verbeck.
Bonjour à tous.
Mathilde Gauguin est assistante sociale dans 3 collèges de la région d'Angers. Depuis le déconfinement, elle mène une fois par semaine des ateliers pour permettre aux enfants de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu.
Alors, on fait aujourd'hui, comme on a fait la semaine dernière, une séance qu'on a appelée séance éducative.
Les élèves n'étaient pas très spontanés hein, derrière leur masque et derrière leur visière. Ça a été un petit peu difficile au début, c'était assez mutique. Et puis petit à petit, ils ont commencé à être un peu plus spontanés. On a pu parler justement de leur vécu de confinement, donc la plupart ont dit que ça s'était bien passé. Il y en a certains qui étaient seuls, donc pour eux c'était plus compliqué de se mettre au travail par exemple. Les journées pouvaient être un peu plus longues, donc ça ils ont pu l'exprimer. Il y en a beaucoup qui ont parlé de ce qu'ils ont pu faire, donc ça a été intéressant. En tout cas pour eux de le verbaliser, c'était valorisant aussi de le verbaliser devant leurs copains-copines.
À 14h35.
Lors du confinement, Mathilde Gauguin a su s'adapter et faire des entretiens par téléphone avec les élèves et les familles qu'elle accompagne. Mais le lien n'a pas toujours pu être maintenu.
Ça va être compliqué. Hein. En septembre, il y aura peut-être même des situations avec des familles qui se seront effectivement dégradées, mais dont on n'aura pas connaissance. Ça va être à nous de reprendre contact avec ces familles-là. Ça va être vraiment notre priorité en septembre, justement. Et puis permettre aussi à l'enfant d'avoir un espace de parole pour justement qu'il puisse verbaliser tout ce qu'il a vécu pendant le confinement. Il va falloir être vigilant à ça, et notamment pour les situations d'enfants pour lesquelles ça a pu être compliqué en famille. Je pense à une famille que j'ai accompagnée en début d'année. On a fait tout un travail autour de la mise en place d'une aide éducative, puisque la jeune fille, elle avait révélé des choses compliquées au domicile, un lien avec sa maman qui était vraiment très difficile. Et du coup, on avait mis en place tout un accompagnement. Ça venait juste de démarrer quand le confinement a commencé. J'ai fait le choix de ne pas l'appeler, parce que j'avais peur que ça la mette en difficulté. Et c'est une jeune fille qui revient pas là, au collège. Donc j'ai pensé à cette situation souvent pendant le confinement, en disant que l'école c'était un lieu sécur pour cette jeune fille, en tout cas un lieu où elle s'épanouissait, où elle se sentait bien. Donc le fait de pas pouvoir y retourner, ça devait être compliqué. Après nous, notre travail c'était de faire le lien avec les partenaires pour au final s'assurer que la jeune fille était dans des conditions où elle n'était pas en danger.
Garder le contact et aider, ça a été et c'est toujours la principale préoccupation des assistantes sociales. À Amiens, Anissa Amadouche travaille au centre communal d'action sociale. Pendant le confinement, les demandes ont été multipliées par 5.
On était peut-être les seuls professionnels qui étaient sur le terrain dans un premier temps. Alors on a vu arriver de nouvelles personnes, particulièrement les jeunes. Ils ont perdu leur emploi, certains se sont retrouvés ou étaient déjà en rupture familiale, sans forcément de solution d'hébergement, des difficultés à payer leur loyer, à payer leurs charges. Au regard de la situation, c'est vrai que nous, on a interpellé notre direction en disant que il fallait faire quelque chose, que on ne pouvait pas laisser ce public dans cette situation. Amiens étant la capitale européenne de la jeunesse, le dispositif Amiens for Youth a débloqué aussitôt une enveloppe de 18 000 euros Tout l'enjeu, c'est de repérer ces jeunes, d'évaluer leurs besoins, de les analyser et de leur proposer un accompagnement pertinent et sur la durée.
Elle et sa collègue ont donc monté des commissions en urgence pour distribuer cette aide. La période a été intense pour l'assistante sociale.
C'est une profession qui est souvent dans l'ombre, c'est une profession qui est souvent mal connue. Et là, on s'est rendu compte que les travailleurs sociaux en général, et notamment les assistantes de services sociaux, sont indispensables dans le cadre d'une crise comme celle-ci. Hein.
Un travail de l'ombre, mais essentiel donc pour les personnes vulnérables, des populations souvent invisibles et d'autant plus pendant cette crise. C'est notamment le cas des migrants. Élise Plessis est assistante sociale au centre Primo Levi qui soigne les troubles psychiques des exilés à Paris. Pendant le confinement, elle a eu recours au système D.
Il a fallu pallier en fait à l'absence alimentaire, donc en faisant des appels à solidarité sur des communes particulières où on avait des familles qui ne s'alimentaient plus ou qui s'alimentaient avec très très peu de moyens, c'est-à-dire à base de liquide ou de lait, quoi. Donc le recours aux citoyens solidaires les trois premières semaines. Moi également qui est allée faire quelques courses pour des patients et qui les ai livrés là où ils vivaient. Enfin, j'ai créé une page Facebook aussi pour recenser l'ensemble des initiatives qui étaient prises. Donc il y a eu voilà un trou noir, moi je l'ai appelé comme ça, de 15 jours, 3 semaines, où il fallait réagir assez rapidement. C'était une autre façon d'exercer mon métier, ça c'est sûr, parce que c'est pas des choses que je fais habituellement, mais circonstances exceptionnelles, réactions et pratiques exceptionnelles. Donc j'ai dû m'adapter au contexte.
Et l'assistante sociale s'inquiète des mois à venir. Les démarches administratives des migrants ont 2 mois de retard et le système d'hébergement d'urgence est à l'arrêt, sans compter les effets psychologiques de la crise sanitaire.
Et comme tous les mercredis, c'est l'heure de notre chronique en un mot, direction la Bulgarie aujourd'hui avec le mot bétono-morié, une spécificité architecturale des côtes bulgares qu'on retrouve partout, vous allez l'entendre, Damian Vodanicharov.
Недоволството е под наслов бетономорие.
Родното бетономорие.
Бетономорие. Недоволни хора от групата бетономорие.
Обединени в група бетономорие.
В групата бетономорие.
Бетономорие. À la fois néologisme, mot-valise et jeu de mots, ce nouveau venu dans la langue bulgare symbolise désormais la construction sauvage sur la côte de la mer Noire. Tout commence par un groupe Facebook écologiste créé par Miroslava Petrova.
C'est un mot sans compromis. Il associe le mot béton et Tchernomorié. C'est ainsi qu'on désigne le littoral bulgare. Bétonomorié fait référence à cette côte bétonnée et à la vérité de ce qui est en train de se passer sur notre côte défigurée, mais aussi l'atteinte à l'état de droit. La corruption a complètement anéanti la Constitution. C'est pourquoi on a voulu créer ce groupe Facebook.
Peu à peu, le nom du groupe Bétonomorié gagne en popularité pour devenir un hashtag, puis pour entrer dans le langage courant. Aujourd'hui, il est souvent repris par les médias pour désigner les chantiers qui font scandale sur la côte, mais aussi l'atteinte à la nature au nom du tourisme de masse. Dernière en date, la construction d'une fortification contre les glissements de terrain en bord de mer. Mais la population a découvert une fortification avec de larges pièces, des cages d'escalier et des ascenseurs. Après une vague de mécontentement, l'investisseur et les autorités ont admis qu'il ne s'agissait que de la première étape du chantier d'un hôtel. Pour revenir au mot bétonomorié, Miroslava Petrova ne s'attendait pas à un tel succès, mais elle n'est pas surprise non plus.
Ce mot est né lors d'une conversation au sein de notre communauté. C'est pour cela aussi qu'il connaît un tel succès. Il n'a pas été réfléchi ou recherché. Il tombe en plein dans le mille. Il désigne un phénomène réel. Et je pense que le succès est assuré lorsqu'on ne se sert pas de demi-vérités et de propos flous.
La construction sauvage sur la côte bulgare de la mer Noire commence il y a une quinzaine d'années. Des plages vierges ont été transformées en zones touristiques avec cafés, restos et bars. Des hôtels ont poussé en bord de mer au point où des stations balnéaires, des villes et des villages ne forment plus qu'un paysage continu de haute construction. Aujourd'hui encore, les chantiers controversés et les incidents écologiques se multiplient. Les investisseurs cherchent désormais à construire au sein des parcs naturels et espaces protégés en bord de mer, faute de terrain urbanisé. Le mot « bétonomorié » n'a donc pas fini de faire parler de lui.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous retrouver à toute heure et partout, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr ou via notre podcast Accent d'Europe sur votre plateforme d'écoute. À bientôt.